Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Flora Cortès.
Ce week-end auront lieu les Journées nationales de l'architecture. Le week-end prochain, le Salon international du patrimoine culturel au Carrousel du Louvre à Paris. De prétexte pour mettre à l'honneur ce matin les projets d'une association que l'on connaît bien, les Chantiers du Cardinal. L'occasion de pouvoir réexpliquer la difficulté de rénover les églises construites après 1905, mais aussi de pouvoir mettre en avant les nouvelles églises et centres ecclésiaux qui continuent à voir le jour. Depuis 2012, les Chantiers ont accompagné 12 grands projets de construction d'églises et depuis ses débuts, ils ont soutenu la création de plus de 300 églises et chapelles. Plusieurs chantiers sont en cours, que ce soit de la restauration, de l'aménagement ou du neuf. Un ensemble d'actions qui permet de protéger notre patrimoine religieux, mais aussi de le faire évoluer. Véritable passage de témoin entre plusieurs générations de prêtres, de paroissiens ou d'architectes. Et ce matin, j'accueille Ariel Courtier, rédactrice en chef de Bâtisseur, la revue des chantiers du Cardinal et du site internet, journaliste du patrimoine et auteur de Histoire d'église en Île-de-France, coécrit avec Albéric de Palmart, et à l'occasion des 80 ans du chantier du Cardinal. Bonjour Ariel Courtier.
Bonjour.
Mais aussi en plateau, Benoît Andrier, architecte associé du cabinet Agapé avec Benoît, avec Antoine Pellissier, et du cabinet Steren pour des projets personnels. Vous avez également une formation d'ingénieur, architecte et architecte du patrimoine. Bonjour Benoît Andrier.
Bonjour.
Et Antoine Pellissier, architecte également associé donc du cabinet Agapé, mais aussi du cabinet Apo pour vos projets personnels.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à tous les trois et merci d'être présents avec nous ce matin. Pour commencer, on va peut-être faire un petit rappel, notamment sur les chantiers du Cardinal, réexpliquer pourquoi existent les chantiers du Cardinal ? Quelle est la raison d'être des chantiers du Cardinal, Ariel Courtier ?
Alors, la vocation des chantiers a à la fois évolué et finalement est la même qu'à leur fondation en 1931 par le Cardinal Verdier. À l'époque, je ne vais pas revenir sur l'histoire en détail, mais la banlieue se construisait autour de Paris et naturellement sans lieu de culte, puisque l'État n'avait pas vocation à construire des lieux de culte. Donc le cardinal Verdier, qui était archevêque de Paris, qui couvrait le département de la Seine, s'est dit, s'il n'y a pas d'église, eh bien les catholiques n'iront plus à la messe. C'est très simple. Donc voilà, les chantiers fondés en 1931... À la mort du cardinal Verdier en 1940, une centaine d'églises avaient déjà été édifiées sur la ceinture de Paris. C'est pour ça que tout le monde connaît Sainte-Odile, Sainte-Jeanne de Chantal et bien d'autres. Donc la ceinture de Paris et puis dans la proche banlieue. Maintenant, la vocation des chantiers est plus... C'est assez logique de restaurer des églises, de préserver ce patrimoine du XXe et du XXIe siècle, puisque, comme vous l'avez dit, on continue à construire des églises. Donc 12 grands projets, Saint-Paul de la Plaine, le déploiement de la cathédrale de Créteil en 2015. Et maintenant, le soutien encore de 4 grands projets, dont l'église Saint-Joseph le bienveillant à Montigny voisin dont nous allons parler. J'ajoute simplement que ces églises, on parle d'églises en 1931, on parlait d'églises avec un presbytère en général. Maintenant, on parle beaucoup plus, et c'est intéressant sur le fond, de centres ecclésiaux ou paroissiaux. C'est un projet pastoral beaucoup plus vaste qu'un simple lieu de culte.
Oui, ça va au-delà simplement d'un endroit pour pouvoir célébrer les messes.
Voilà, si on prend Saint-Colomban, l'église Saint-Colomban, à côté de Val-d'Europe, aux portes de Disneyland Paris, il y a un établissement d'enseignement catholique qui va être bâti juste à côté, qui pourra accueillir jusqu'à 1200 élèves. Et naturellement, des logements pour les prêtres, et tout un centre pastoral, et souvent qui sont des navires amiraux, pour des régions.
D'accord.
Parce que manque de prêtres et, voilà, et développement de la population, surtout sur ces zones.
Et on peut peut-être également réexpliquer ou rappeler la différence entre les églises qui ont été construites avant 1905 et après, et pourquoi les chantiers du cardinal travaillent sur celles qui ont été construites après 1905.
C'est une des raisons de la, enfin c'est même la raison principale de la fondation des chantiers, puisque eh bien était passée la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, et donc tous les lieux de culte qui avaient été bâtis, et il y en a eu beaucoup après 1905, étaient déjà à la charge de l'Église. Donc, quand je dis qu'il n'y avait pas de restauration, bien sûr, il y en avait déjà, mais ce n'était pas la fonction principale. Alors, ça, c'est la première chose. On pense toujours, c'est une idée reçue, que toutes les églises sont restaurées par l'État ou par le Vatican. Bon, c'est... Non, non, tout ce qui est après 1905 est à la charge de l'Église, que ce soit des restaurations ou des constructions nouvelles. Et ce qu'on sait encore moins, c'est que les aménagements intérieurs sont à la charge de l'Église. Ça a été le cas tout simplement à Notre-Dame de Paris, dont on parle beaucoup avec Mgr Lustiger. Ça a été le cas à la basilique de Saint-Denis il y a 2 ans, où le chœur a été réaménagé. Il y avait un hôtel provisoire depuis Vatican II. Et c'est le cas d'un des projets qui seront évoqués au Salon international du patrimoine culturel, où les chantiers auront un stand, donc du 24 au 27 octobre, de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt, qui fête son 700e anniversaire.
Et alors, donc, on a parlé de rénovation, de réhabilitation, de réaménagement, mais donc les chantiers aident également à la construction de nouvelles églises, de nouveaux centres ecclésiaux. Quelle est la volonté des chantiers dans cette action-là ?
Tout simplement de répondre finalement au thème du salon qui est un oxymore, le futur en héritage. Et voilà, les chantiers ont vocation de transmettre aux générations futures des églises qui ont été construites par les générations passées et de les transmettre en bon état. Et également de continuer à travailler pour le futur et donc d'accompagner les projets de construction d'églises. Les chantiers accompagnent tous les grands projets de construction d'églises en Île-de-France. Et depuis leur élargissement, l'élargissement de leur action en 2011, où il y avait eu à l'époque l'engagement avec les 8 diocèses d'Île-de-France de construire un nouveau lieu d'église. Ou dans le cas de la cathédrale de Créteil, de le développer. Et c'est pour ça que donc actuellement, il y a 4 projets accompagnés par les chantiers.
Alors, dans les projets justement en cours, il y a Saint-Joseph-le-Bienveillant à Montigny, voisin le Bretonneux, dans les Yvelines. Donc, c'est un projet qui est en cours. Et donc, c'est vous, Antoine Pellissier et Benoît Andrier, qui travaillez sur ce projet avec votre agence Agapé. Alors, déjà, Agapé, pourquoi ce nom ? Parce que c'est un nom chargé de beaucoup de sens.
Alors, Agapé, parce que, en fait, c'est la fondation de notre association, en réalité, puisque l'agapé, c'est la charité, voilà. La caritas, c'est la même chose qu'agapé, en grec et en latin. Et tout le monde comprend ce que veut dire la charité. Donc, nous avons mis Agapé, c'est aussi les initiales de nos noms de famille, agence Andrier Pellissier. Et donc, ça rejoint un petit peu ce jeu de mots avec la Caritas. Voilà, assez simplement. Et donc, il y a une vocation, je dirais, initiale de service de façon globale des architectes que nous sommes vers nos clients et aussi de faire l'architecture liturgique ou sacrée comme on apprend à la faire en ce moment sur ce nouveau centre et comme on l'a déjà fait avant avec d'autres projets.
Mais c'est pas la première fois que vous travaillez sur des églises ou des bâtiments
Non, moi j'ai réalisé une église au Havre en 2012 pour le diocèse du Havre avec voilà, avec une paroisse à Vraise. Et après, donc on a pu s'associer, Benoît et moi, et on a développé ce projet-là avec le père Marco Rupnik. Donc on avait une expérience, et bon, après Benoît peut parler de son expérience aussi, de recherche théologique.
Alors moi j'avais commencé par faire mon diplôme sur une maison d'église en Seine-Saint-Denis, qui a été construite depuis, c'est pas mon projet, mais c'était un projet qui a été construit par l'architecte Berger. Et avec Antoine, on a travaillé sur des chapelles, on a fait des oratoires, on a beaucoup travaillé sur ces lieux. On a travaillé sur l'église Saint-Pierre du Gros Caillou à Paris. On a travaillé sur un centre diocésain dans l'Oise, avec une chapelle, un oratoire dans un collège aussi dans l'Oise. Donc voilà, et c'est des questions qui nous passionnent. C'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés, et c'est sur ça qu'on construit et qu'on a construit l'agence Agapé.
Voilà. Et alors, comment vous êtes retrouvés sur ce projet de Saint-Joseph le Bienveillant? Comment ça fonctionne?
Alors en fait, il y a eu une consultation d'architectes. Hein. Je ne dirais pas que c'était un concours, parce qu'on a été simplement invité à présenter notre vision d'une collaboration avec le Centre Aleti. Mm-hmm. Et nous, on a insisté en disant qu'on souhaitait vraiment avoir un vrai travail avec eux, et pas juste une vision un peu de censeur en disant on va valider le projet du Centre Aleti du père Rupnik. Et donc je pense que il y a eu aussi un échange à l'époque avec le Centre Aleti par rapport à notre oral, et ils ont trouvé qu'on était en ligne avec la même vision qu'eux, en fait, sur la théologie, sur la vision de l'Église. Et donc au final, on a été choisi comme ça, parce que on partageait avec eux une même vision de ce qu'est-ce que c'était que construire une église aujourd'hui.
Ariel Courtier, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'il remonte, les premières réflexions remontent à 2006. Mm-hmm. Et à l'époque, il s'agissait simplement de construire un lieu de culte vaste, parce qu'il n'y avait aucun grand lieu de culte. Actuellement, à Montigny, voisin de Bretonneux, il y a 3 églises qui font en moyenne 300 places. Donc, il n'y avait aucun lieu pour pouvoir rassembler toute la communauté lors d'événements. Et puis, 2006, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions. Et le projet a évolué pour en faire justement un véritable centre ecclésial. Ce qui est intéressant aussi, et c'était une des fonctions des chantiers, c'était de répondre à l'évolution de la société, qu'on dit le futur en héritage, c'est qu'il faut déjà penser à ce qui va se passer après, et donc à l'évolution de la société. Et la deuxième chose, c'est que, mais ça, nos amis architectes le diront mieux que moi, c'est que Monseigneur Aumônier, donc l'évêque de Versailles, a choisi, contrairement à la construction de lieux de culte, vous évoquiez Saint-Paul-de-la-Plaine, où Patrick Berger et son associé Hans Jutti ont donc conçu cette église. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réflexion théologique, bien sûr. Mais là, dans ce cas-là, Monseigneur Aumônier a choisi de partir d'une réflexion d'un théologien, le Centre Aleti à Rome, et ensuite de que ce centre travaille avec des architectes. Je me permets simplement de dire, parce qu'on n'en parlera pas en détail, que dans les grands projets, il y a aussi la reconstruction d'une église à Chelles, Sainte-Bathilde, que je n'ai pas évoquée. Et c'est important aussi, et j'arrêterai sur Sainte-Bathilde, mais que c'est aussi une évolution, c'est de replacer l'église au centre de la ville. Et les maires, même s'il y a une séparation, sont souvent très heureux de donner qu'il y ait une visibilité, parce qu'ils savent très bien que dans une église, il se passe autre chose que des prières et des célébrations, et que toute la portée sociale de l'église se retrouve dans ces lieux. Donc, ils accompagnent très volontiers, et c'est le cas de Sainte-Bathilde, qui est reconstruite sur la place principale de l'église, et naturellement reconstruite uniquement, là c'est la minute de publicité, grâce à la générosité des donateurs. Parce qu'à partir du moment où c'est à la charge de l'Église, naturellement, s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'Église.
Et donc évidemment, vous parliez de l'importance des chantiers du cardinal dans tous ces projets, des projets nouveaux ou alors justement des réhabilitations, des reconstructions. Comment ce passe la décision de construire une nouvelle église, c'est le diocèse qui prend cette décision et qui ensuite fait appel au chantier du cardinal ?
Oui, c'est totalement la décision de l'évêque et même du conseil des évêques, puisque les évêques se réunissent régulièrement, les 8 évêques de la province, donc ecclésiastiques d'Île-de-France et province ecclésiastique de Paris, mais donc c'est l'Île-de-France, se réunissent, discutent et chaque évêque est naturellement maître sur son territoire. Et comme je vous disais que le projet de Saint-Joseph le Bienveillant remonte à 2006, bien souvent ces projets prennent très longtemps parce qu'il y a toute une part de réflexion. Mais ça reste la même évidence qu'en 1931, qu'il faut des lieux là où il y a, comme vous le savez, l'Île-de-France représente 12,2 millions d'habitants. Et il y a des zones comme celle de Val d'Europe, donc aux portes de Disney, celle de Montigny voisin, qui évoluent énormément, où il y a une explosion démographique. Et bien souvent, là aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, en tout cas pour l'Île-de-France, je ne dis pas qu'au fin fond de la Corrèze, c'est le cas, mais en Île-de-France, les lieux sont trop petits.
Oui, je lisais une interview d'un des prêtres de Montigny-Vauzin-de-Bretonneux qui disait qu'il faisait 6 messes par dimanche parce que la capacité des paroisses actuelles était trop restreinte et que ça posait notamment un problème pour les grosses célébrations comme la Vigile Pascale où il n'y avait pas de lieu pouvant accueillir tous les paroissiens.
Moi, je voudrais rebondir sur la question de justement ce lieu de rassemblement en fait de la communauté ecclésiale. Je pense qu'en fait, ce qu'on fait avec Benoît et le père Marco, c'est pas seulement un lieu pour la messe. C'est-à-dire qu'en fait, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'une église, on dit c'est la maison de Dieu. D'une façon générale, on dit voilà, c'est la maison de Dieu, c'est là où on va rencontrer Dieu.
Mais on va en reparler juste dans un tout petit instant. On reviendra évidemment sur cette question-là. On doit faire une toute petite pause.
D'accord, très bien.
En quête de sens, 01 56 56 44 00. Au rendez-vous de l'histoire.
Bonjour, ici Éric Picard. Je vous retrouve chaque semaine pour vous raconter l'histoire des chrétiens, les hommes et les femmes, connus ou non, dont nous sommes les héritiers.
Au rendez-vous de l'histoire avec Éric Picard, tous les mercredis à 15h, sur Radio Notre-Dame.
Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, dans nos pages, retrouvez notre dossier spécial funérailles, quand la mort devient lieu d'évangélisation pour l'Église. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
Ceci est un communiqué des établissements Atlan pour tous les futurs vacanciers.
Saviez-vous que 8 cambrioleurs sur 10 vous dévalisent en passant par votre porte? Avec un cambriolage toutes les heures à Paris, êtes-vous bien certain d'avoir pris vos précautions? D'ici la fin de votre programme radio, un appartement parisien aura été visité. Et si c'était le vôtre?
Sécurisez votre appartement avec les établissements Atlan, serruriers de confiance depuis 20 ans. Appelez-nous au 01 43 58 58 58 ou connectez-vous sur établissement-atlan.com.
Rencontre.
Bonjour, c'est Marie-Ange de Montesquieu. Rencontre, c'est tous les jours à 10h05, un quart d'heure pour découvrir une nouvelle personnalité. Qu'ils soient écrivains, artistes ou prêtres, ils nous racontent leur parcours, leurs projets et ce qui les anime. Rencontre, c'est tous les jours à 10h05 sur Radio Notre-Dame.
En quête de sens, Flora Cortès.
Retour sur le plateau d'Enquête de Sens avec Ariel Courtier des Chantiers du Cardinal et Benoît Andrier et Antoine Pélissier, tous les deux architectes de l'agence Agapé qui travaillent sur le projet de Saint-Joseph le Bienveillant à Montigny, voisin le Bretonneux. Juste avant la pause, Antoine Pélissier, vous vouliez parler de la construction d'une église et du projet théologique avant tout, avant de commencer un projet architectural.
Oui, exactement. En quelques mots, en fait, on voudrait préciser un peu comment on travaille sur ce projet. En réalité, le père Rupnik nous a inséré dans cette vision de la théologie de la construction d'une église aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une façon générale, les gens disent voilà, c'est la maison de Dieu, etc. Nous, ce qu'on pense avec le père Marco, et on partage cette vision-là, c'est pour ça qu'on fait ce projet avec lui, c'est qu'en réalité, c'est la maison de l'Assemblée. Et de l'Assemblée en direction du Père, vers le Père. Et donc, au fond, on porte avec lui et dans ce projet-là une vraie théologie de l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'être de l'architecture, c'est d'abord une assemblée qui va vivre le passage vers le Père à travers le Christ. Et tout le projet architectural et iconographique de cette église est basé sur ça. Mmh. Donc, nous, quand on a pensé ce projet et quand le Père Marco a réfléchi au projet pendant au moins une année et demie, il y a eu ce développement-là qui a été fait. Et donc, il y a eu la construction, en fait, de cette vision christique qui a permis de construire une architecture, construire un espace. Et au fond, c'est la liturgie qui transforme l'espace. Et donc, cette liturgie qui modèle l'espace, c'était vraiment la base du travail du père Marco Rupnik, qui est un jésuite, qui est artiste, qui a été reconnu par Jean-Paul II dans les années 80, où il a réalisé la chapelle Redemptoris Mater, donc au Vatican, et qui depuis a eu la mission de développer donc ce centre Aldetti, qui est en fait un lieu de réflexion, d'enseignement sur l'art, l'art sacré, sur voilà la théologie de l'art, et qui accueille une communauté d'artistes très diversifiée qui vont dans le monde entier en fait réaliser ces œuvres d'art, et avec une sorte de vision de synthèse entre l'Orient et l'Occident. Mmh. Voilà, où on prend le meilleur des deux et on essaye de faire un art en fait qui parle aux personnes, qui soit une sorte de catéchèse pour les personnes, et qui soit pas juste un art esthétique, la beauté pour la beauté, vous voyez. Donc la vision du père Marco Rupnik avec le Centre Aldetti, c'est vraiment ça. Et quand il a été appelé par Monseigneur Valentin, Monseigneur Monnier, c'était justement son premier projet d'église. C'est ce qu'il dit bien dans l'interview en fait du site internet de Saint Joseph le Bienveillant. Il le dit clairement qu'il a il avait la possibilité d'expérimenter cela dans une grande échelle. Mmh. Voilà. Et donc suite à ça, il y a eu ce concours en architecture et on a commencé à l'écouter, à participer aux réunions pendant au moins un an. Peut-être, et ensuite on a mis la main dans le projet véritablement.
Benoît Andrier.
Oui, alors comment on travaille avec le père Rupnik?
Donc le père Rupnik, vous en avez parlé, et c'était lui qui a été, c'est lui qui a été appelé au départ par Monseigneur Aumônier, ouais, pour réfléchir à ce projet de nouvelle église.
Voilà, donc il a été désigné, et le père Rupnik est un grand artiste mondialement connu. Il est prêtre, il est jésuite, il est très très sollicité, c'est-à-dire qu'il a un carnet de commandes 8 ans devant lui, donc voilà. Et il s'est intéressé à cette église de Saint-Joseph le Bienveillant pour les raisons qu'a évoqué Antoine, c'est-à-dire c'était le choix de faire une église complète et de pouvoir faire sa théologie. Mais le père Rupnik n'est pas architecte. Et pour construire en France, pour signer des plans d'architecte, des plans de projet, des plans de permis de construire, il faut être architecte, il faut être inscrit à l'ordre des architectes. Donc le diocèse était un peu obligé de trouver une agence française qui puisse accompagner le travail du père Rupnik. Donc le concours, enfin la consultation qui a été lancée, c'était dans ce but. Et les choses étaient annoncées très clairement, c'est-à-dire qu'il fallait une agence qui signe les plans du père Rupnik. Alors, nous, ça nous a posé un petit problème. Et dans la consultation avec Antoine, on s'est positionné. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a dit, nous, on n'a pas envie d'être, le nègre ou le je ne sais pas quoi du père Rupnik. On veut être impliqué dans le projet. On veut comprendre le projet pour pouvoir justement l'accompagner. Parce que le but qui nous avait été donné dans le contrat, c'était de signer les plans du permis et de faire le chantier. Mmh. Donc, si on veut faire un beau chantier, comme architecte, on le sait tous, il faut avoir participé et conçu le projet. Donc, il y avait un petit problème de... Voilà. Mais donc, comment, avec cette personnalité incroyable, internationalement connue, nous, jeunes architectes français, pouvions répondre et prétendre à participer avec lui à cette œuvre de conception? Donc, on s'est dit, on va se présenter comme des serviteurs inutiles, un petit peu, et se mettre au service du projet. Donc c'est ce qu'on a proposé dans la réponse à la consultation. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'est positionné. Et c'était pas facile au début parce que donc on a été choisi.
C'était pas un schéma habituel.
Non, pas du tout. Et puis Bon, voilà, il fallait accepter ça aussi. Les architectes, ils ont toujours tendance à vouloir se mettre en avant. Et voilà. Donc, on a vraiment accepté ça. On en a beaucoup discuté entre nous et on a dit, voilà, on se positionne comme ça. On répond et on a défendu ce parti. Alors, il se trouve qu'Antoine parle très, très bien italien. Il a fait une partie de ses études en Italie. Sa femme est italienne. Donc, ça a aussi joué beaucoup dans le concours parce qu'il y avait un membre du centralitisme. Le père Upnik n'était pas là lors de la consultation. Il avait envoyé un architecte francophile du centre. Et voilà, on a été retenus. Et l'étape suivante, c'était d'aller le voir à Rome pour les vraies présentations
officielles.
Il faut savoir que moi, je connaissais les œuvres du père Upnik sans le savoir, parce que tout le monde a vu les panneaux sur toutes les églises de Paris et de France, et du monde entier d'ailleurs, de l'année de la Miséricorde, où il y a le logo du Bon Samaritain, qui est un dessin du père Upnik. Voilà, on avait tous vu ça, on le retrouve dans beaucoup de publications catholiques où on a des œuvres du père Upnik. Comme il est connu, on le voit partout, mais moi, je ne savais pas que c'était lui. Et donc, on l'a rencontré à Rome. Et c'est assez impressionnant, même si c'est quelqu'un de très chaleureux, très humain, très abordable. Vraiment, il nous a reçus de façon adorable avec son équipe, qui était composée d'architectes. Et il a mis un peu les choses au clair. Il a dit, voilà, moi, chez moi le berger. Et j'ai compris et j'apprécie le fait que vous ayez une personnalité, que vous ayez envie de... Mais laissez-nous travailler, laissez-nous Centrality travailler. On vous tiendra au courant, on vous fera participer. Bon, mais bon, voilà, on est reparti avec Antoine dans notre agence travailler. Puis on envoyait des petits mails, on essayait d'avoir des infos. Et très franchement, il y a eu une première période où on n'avait pas beaucoup de retours, pas beaucoup d'infos. Ça a duré presque une année, voilà. Mm-hmm. Et à un moment donné, il est venu, il a dit « je vais présenter le projet à l'évêque ». Il est venu seul à Paris avec son projet et son projet théologique. On avait essayé d'avoir quelques infos avant, on n'a rien eu. Donc on est arrivé, il y avait une grande salle, il y avait toute l'équipe du diocèse et l'évêque. Le père Upnik est arrivé, il a fait sa présentation et on a tous découvert le parti théologique du projet et quelques esquisses de bâtiments qui étaient voilà. Avec Antoine, on se mordait les lèvres, on s'était dit on ne va pas trop ni critiquer, ni trop se positionner, on reste au service du projet et on va voir. On a très peu échangé avec lui parce qu'il repartait très vite. Mm-hmm. Il repartit à Rome et l'étape d'après, c'était une grande réunion de présentation à la paroisse du projet qui se passait 3-4 mois après.
Et donc là, vous avez pu commencer à
Donc c'était en mois de décembre, cette présentation, fin novembre, début décembre. Et une semaine ou deux semaines après, on reçoit un appel de Rome. Venez me voir. Donc, on prend l'avion, on retourne le voir à Rome. Et là, c'était assez beau. On a vécu un moment extraordinaire. Il nous a dit je commence à vous connaître. Alors qu'on s'était quand même vu pas si souvent que ça, mais effectivement, il a vu qu'on était au service, etc. Maintenant, voilà où on en est dans le projet. À vous de jouer. Donc, en gros, la grande réunion de présentation à la paroisse, on est reparti de tout son travail et on l'a mis à jour. On a travaillé avec lui pour la présentation à la paroisse, qui était une grande présentation avec des ateliers de travail. C'était un super travail qu'on fait à la paroisse. Et là, il nous a vraiment envoyé en mission pour faire ce projet et il nous a donné toute sa confiance. Et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur de travailler avec lui. Et on est vraiment en harmonie, on partage beaucoup de choses. Et juste pour vous dire jusqu'où c'est allé, c'est-à-dire qu'il avait dans sa mission une grande partie du projet. Et puis nous, on prenait le relais à peu près au moment du permis de construire. Et il nous a rétrocédé une partie de sa mission en disant, voilà, maintenant c'est vous qui prenez en charge ça. Mais je reste là et je suis toujours le berger et c'est moi qui tiens les rênes.
Qui gère à distance, voilà.
Mais avec une vraie implication. Ouais. Voilà, comme architecte, je me sens plus du tout frustré aujourd'hui. Je suis vraiment épanoui dans ce projet. Et Antoine, je pense que tu peux dire la même chose.
Antoine Pélissier.
Oui, c'est ce que dit Benoît est super parce que c'est vraiment l'histoire qu'on a vécue. Cette histoire de communion en fait et d'unité. Et moi, ce qui me touche dans ce projet-là, c'est qu'en fait... Le projet, c'est un projet d'unité de communion. C'est ce que je voulais dire par rapport à l'Assemblée. Et qu'en fait, nous, on le vit en amont. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça se ressentira dans la réalisation et dans l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, on ne serait pas en communion avec le père Marco Rupnik et avec la paroisse. on ne pourrait pas faire un projet aussi beau et qui nous dépasse d'une certaine manière. Et ce que dit le père Rupnik, c'est aussi de trouver une beauté qui fascine, une beauté qui pose question et qui fait rentrer les gens. Et il me semble que ce n'est pas une simple beauté formelle qu'on met en œuvre dans ce projet-là, mais c'est cette beauté-là, cette beauté de l'unité de la communion. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la beauté si ce n'est véritablement la relation entre les personnes. Voilà. Et il ne cesse de le dire, de le répéter. Et vraiment, là, je trouve qu'on est un peu béni par l'Esprit Saint dans ce projet, parce que véritablement, il y a cette unité-là. Voilà. Et j'espère que ça se ressent dans l'architecture et dans ce qu'on
va réaliser. Et vous parliez, vous avez fait des présentations auprès des paroissiens. J'imagine qu'ils avaient beaucoup d'attentes, peut-être des craintes par rapport à la création de cette nouvelle église.
Oui, et alors ce qui est étonnant, c'est qu'aussi, comme c'est un projet qui nous dépasse un peu tous, et je pense que ça dépasse aussi le père Rupnik d'une certaine manière, il y a vraiment une ouverture à l'écoute des paroissiens. On a récolté toutes les demandes et toutes les questions. Après, il y a eu un gros travail de tri qui a été fait par la paroisse et de retranscription en fait de ces questions et de modification du projet. Donc le projet a évolué entre la première présentation d'il y a 2 ans et une seconde présentation qu'on a faite il y a 1 année à peu près, où justement on a pris en compte toutes ces remarques. Mmh. Et vraiment le projet s'est bonifié et justement on a pu donner du sens aussi à l'architecture à l'extérieur du bâtiment. C'est-à-dire qu'en fait le bâtiment ce n'est pas juste une architecture intérieure, c'est aussi une catéchèse extérieure de par exemple le travail sur les mosaïques signifiante qu'on va mettre en place et qui est aussi une solution pour nous intéressante puisqu'elle permet de revêtir toute l'église de pierre par le centralité. Donc il y a un travail comme ça et ça avait été une critique qui avait été faite d'avoir cette architecture un peu blanche, un peu trop monolithique, et là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus parlant et signifiant.
André,
je voulais juste souligner qu'il y a eu un travail assez fantastique de fait par la paroisse. C'est assez rare, donc il faut le dire, c'est qu'on avait un vrai programme, mm-hmm. un beau programme avec des intentions fortes, même liturgiques. Mm-hmm. Et par la suite, de la communication assez incroyable pour que les paroissiens s'investissent. On a eu ce grand rendez-vous, il y avait des ateliers où les paroissiens se retrouvaient après pour réfléchir sur la présentation qui avait été faite. Le père Rupnik était venu présenter toute la partie théologique. Mm-hmm. Donc on a eu plusieurs fois des soirées comme ça où on présentait les avancées du projet, on écoutait et on faisait des retours. Et comme l'a dit Antoine, ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois, le projet, il se bonifie, il devient plus beau. Plus... Il s'améliore. Donc on se dit, il faut que ça s'arrête quand même un moment parce qu'on ne va pas pouvoir...
On ne peut pouvoir continuer éternellement.
Sinon, ça va... Jusqu'à on a toute l'éternité pour l'améliorer, mais voilà.
Ariel Courtier, comment les chantiers du cardinal accompagnent justement pendant que les projets sont en cours de réflexion, de réalisation quel est le suivi des chantiers du cardinal sur ces projets-là? Parce qu'il y a une participation financière, évidemment, qui est...
Alors, il y a une participation financière sur les projets dont on parle actuellement, donc dont Saint-Joseph le Bienveillant. Il n'y a pas d'accompagnement en maîtrise d'ouvrage délégué. Ça a été le cas à Saint-Paul-de-la-Plaine, à cathédrale de Créteil. Là, il se trouve que les diocèses, en particulier celui de Versailles, est quand même très armé. Un service immobilier n'a pas besoin de l'aide des chantiers. Les chantiers ont plus vocation à accompagner des projets de restauration où les paroisses sont maîtres du projet, mm-hmm. et donc n'ont pas les ressources nécessaires. Ce que je voulais aussi évoquer, c'est intéressant sur ce projet-là, et ça l'est en général. Si on prend par exemple le projet de Danières, de Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une église qui a été construite par un architecte qui s'appelle Nazouski en 1934. Le mmh. début de la construction, c'est 1934. Une église, alors là, totalement accompagnée par les chantiers. Et cette église n'a jamais été achevée. C'est un autre, justement, ce futur en héritage, c'est aussi ça, c'est que cette église n'a jamais été achevée, elle n'a jamais eu de campanile, et pas de clocher, ni de façade. En fait, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la façade n'a pas pu être achevée et donc il y avait simplement une petite porte et une façade murée.
Et là, ça fait partie des projets qui accompagnent les chantiers du cardinal. Vous pouvez aussi aider à l'achèvement d'un bien. On va continuer d'en parler juste après une nouvelle pause avec de la musique.
Radio Notre-Dame.
Imagine-toi dans une rue tout en ville, mais avec une lumière comme il n'y a pas chez toi, et ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Je serais bien loin de savoir ou dire si l'on verrait des jours ou bien meilleurs ou pires, mais ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Moi je suis un homme de peu, je suis le fils de rien. On m'a bandé les yeux avant que j'aie vu le chemin. On m'a jamais dit viens, on m'a dit va où tu veux. Mais je déambule tout bas, gentiment, inutile. J'aimerais faire quelque chose, pas forcément facile. Je voudrais pouvoir te dire, j'ai un peu vécu pour toi. C'est comme un jour où l'on se promène et l'on sent que ça va et que le vent t'entraîne. Où ce serait peut-être là un endroit pour vivre. C'est toute la nuit quand on parle au dehors du rêve tranquille d'un monde qui donne. Et ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Ce serait peut-être là un endroit pour vivre. Ce serait peut-être là un endroit pour vivre.
Un endroit pour vivre, c'était William Scheller ce matin sur notre antenne. Retour donc sur le plateau d'Enquête de Sens avec Ariel Courty des Chantiers du Cardinal, Benoît Andrier et Antoine Pélissier, tous deux architectes dans l'agence Agapé qui travaillent donc sur le projet de Montigny-Voisin, le Bretonneux. Ariel Courty, juste avant la pause, vous nous parliez de l'église d'Anières qui n'a pas pu être achevée, notamment à cause de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, et donc le projet actuel est de créer une façade pour cette église, et, avec une représentation de Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui a été particulièrement priée dans cette église, puisque c'était à l'origine un lieu de pèlerinage. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est l'autre dimension actuelle des projets d'église, c'est que la lumière a toujours été, même si on revient à l'abbé Suger et la basilique de Saint-Denis, naturellement la lumière a toujours été essentielle dans les églises. Ce qui est important là, c'est qu'il y a la transparence maintenant, c'est que l'église, avec un grand E, souhaite que l'on voit ce qui se passe dans les églises, ça ne soit pas fermé, de donner envie d'entrer. Et c'est ce projet, c'est donc de créer une façade avec une grande porte vitrée et cette figure de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Là aussi, on retrouve l'histoire, c'est particulièrement émouvant puisque l'intérieur de l'église est en très grande partie, d'ailleurs c'est un petit souci parce que c'est compliqué de la nettoyer à l'intérieur, parce qu'elle est couverte d'ex-voto peint, de grâce à Notre-Dame du Perpétuel Secours, en particulier pour, entre guillemets, le retour de nos fils de la guerre. Merci pour le retour de nos fils. Donc sont des, voilà, c'est une mémoire de l'histoire et une évolution de l'Église vis-à-vis de la société actuelle. Il faut que l'Église soit ouverte sur le monde. Et en plus, cette Église, dernier point, et reçoit le label Église verte. Il y a tout un gros travail et ça aussi, beaucoup de projets d'Église. Alors, c'est un peu autre chose. Bon, bien sûr, Saint-Joseph le Bienveillant va être labellisé Église verte. Là aussi, on est dans l'air du temps. Il faut absolument que toutes ces églises, qui aient tout un travail de fait sur les économies d'énergie, etc. Alors, elles ne sont pas toutes forcément construites en bois. Mais voilà. Mais il y a toujours aussi un travail, mais ça, vous en parlerez sûrement beaucoup mieux que moi, aussi sur les matériaux utilisés à Asnières, pour finir. C'est une église qui a été construite par l'architecte. C'était très nouveau à l'époque. De pierre reconstituée avec du béton à l'intérieur, plutôt de la construire en pierre, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher. Donc c'est intéressant aussi de voir que les architectes, l'Église est sensible au fait d'être moderne dans le bon sens du terme.
Vous parliez de l'Église dans l'air du temps. Bah, la construction d'une nouvelle Église, comment ne pas être plus dans l'air du temps que de décider de construire une Église aujourd'hui? Et Benoît Andrier, peut-être, ça n'arrive pas tous les jours. Construire une Église au XXIe siècle, c'est quand même un projet particulier, j'imagine, pour un architecte.
C'est une chance incroyable et bah, je remercie le diocèse de nous avoir confié ce projet. Juste, moi je voudrais parler de la position de l'architecte aujourd'hui vis-à-vis d'une église, mais de façon générale aussi. Je pense que je pourrais prendre un exemple deux exemples. Un exemple un peu catholique et un exemple plus général. Donc quand on est architecte, il nous arrive de faire du logement social. C'est pour que vous puissiez mesurer un peu la puissance et le pouvoir presque indécent de l'architecte. C'est quand on construit un logement, si on rate le logement en gérant mal la lumière, en étant dans des aménagements compliqués, la vie de ceux qui vont vivre dans ce logement va être terrible. Ils vont déprimer, ils ne vont pas être bien. Donc il y a un vrai enjeu et une vraie responsabilité pour l'architecte. Donc ça, c'est de façon générale. Et donc dans un projet d'église, ça prend une dimension encore plus forte. Et là, je prendrais plutôt l'exemple de l'iconographe. Quand il fait son icône, il faut qu'il soit inspiré, il faut qu'il soit dans une démarche priante, chrétienne, catholique. On n'est pas dans... Voilà, il ne va pas choisir un modèle, un beau modèle de femme, par exemple, sur lequel il va projeter ses fantasmes ou je ne sais quoi. Et parce que son icône va devenir un support de prière. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé à la Renaissance où on avait des madones qui étaient un petit peu... voilà. Et je pense que c'était difficile de prier devant ces représentations. Et donc l'enjeu de l'iconographe, c'est qu'on arrive à prier et que l'icône soit vénérée et que voilà, il y a un vrai enjeu de prière. Et bien l'architecte, c'est pareil avec son bâtiment. C'est le lieu de la rencontre entre l'homme et le divin. Et si on rate notre travail... voilà, on peut,
cette transmission ça peut être, pourra voilà, pas se faire voilà, correctement.
Exactement, ça peut être assez dangereux. Et voilà, c'est pour ça qu'on est dans une démarche, c'est pour ça que d'être entouré du Père Rupnik, de travailler dans cette ambiance voilà, très cadrée théologiquement, très recueillie, et puis d'être sur un temps long avec un travail avec les prêtres de la paroisse, on a changé de curé, avec Mgr Valentin, Mgr Aumônier, et tous les paroissiens, je trouve qu'il y a une vraie harmonie et il y a une vraie démarche. Et c'est ça qui va faire que ce projet sera réussi. J'en suis convaincu.
Et un peu plus, de manière un peu plus pratique, alors à quoi va ressembler cette église? Mais ce n'est pas uniquement une église, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une construction autour, il y a des bâtiments qui vont avec. Et vous l'avez pensé globalement, ce lieu,
oui,
Antoine Pelletier.
Oui, absolument. En fait, Nous, ce qu'on veut faire dans ce projet-là, c'est que quand on rentre dans cette église, on ressente qu'il y a une communion qui se crée, en fait, rassemblée autour de l'Eucharistie. Donc il y a vraiment un centre et une direction. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est la liturgie qui modèle l'espace, la liturgie, c'est aussi un passage. Et donc, en fait, ce projet d'église, bon, il est constitué d'une église. Après, il y a d'autres bâtiments. Mais si on veut parler plus spécifiquement de la conception de l'espace, on a cette vision du passage vers le Père. Et entre l'assemblée et le lieu du Père, qui est l'abside, qui est cette abside ornée de mosaïques et qui va représenter justement tout le travail de l'homme qui va se transformer en Eucharistie, on a cet autel et on a une faille de lumière qui va montrer de façon visible comment le Christ, ayant donné sa vie pour nous, nous fait passer de l'humanité à la divinité. Et le père Rupnik reprend une image assez belle de l'attente de la rencontre. Vous savez que Moïse, quand il a rencontré Dieu, il a été invité à construire une tente. Et il y avait deux tentes. Il y avait une première tente où se rassemblaient les personnes, les prêtres, le peuple. Et une seconde tente où il y avait le Saint des Saints. Et entre les deux, il y avait un voile. Et en fait, on retrouve ce voile dans beaucoup de constructions, en fait, également même orthodoxes, où on a une séparation en fait entre le Saint des Saints et l'Assemblée. Dans l'Église catholique, il y a ce passage entre l'Assemblée et le Saint des Saints qui est l'abside. Et donc nous, ce qu'on a voulu représenter, c'est exactement ça au niveau de l'architecture, c'est-à-dire le Christ, donnant sa vie, nous fait passer de ce monde au Père. Et donc, dans la liturgie de la messe, en fait, il y a ce passage qui se fait et il y a cette communion qui se crée entre les personnes. Et donc, cette église a une forme, je dirais, organique, puisque toute la vie de l'église est organique. Toute la vie de l'église avec un grand E est une vie organique, est une vie réelle, qui est transformante et qui transforme les personnes. Donc on a cette ovoïde en fait en plan qui accueille cette assemblée qui se dirige vers l'abside. Du point de vue extérieur, on a voulu aussi montrer la présence d'un clocher, d'un campanile qui exprime l'existence d'un lieu chrétien, en fait. Donc ça, c'est par rapport à la ville, donc ça, c'est très important aussi. Et aussi une place, une entrée protégée par les bâtiments du centre paroissial qui se développe donc comme un cloître autour de l'église et qui est le lieu de rassemblement d'entrée et de sortie donc des paroissiens. Et de cette place, on peut se diriger vers les salles de réunion, vers les logements des prêtres, etc. Donc c'est tout un lieu de vie en fait et une nouvelle manière de vivre qu'on a voulu inventer avec le Centraliti et pour les personnes qui veulent venir. Donc c'est un lieu transformant, c'est une expérience en fait qu'on veut faire à travers l'architecture, à travers l'art et aussi par les matériaux différents, c'est-à-dire d'un côté l'église qui sera en pierre et en mosaïque, de l'autre la partie centre paroissiale qui sera plutôt en bois, en structure légère. On représente aussi un petit peu les deux états, d'un côté plus le côté laïque si vous voulez, ou la vie quotidienne, et de l'autre plus la liturgie.
Et les problématiques autour du fait de créer un nouveau bâtiment, une nouvelle église, c'est aussi l'inclure dans la vie autour, l'inclure dans une ville qui est elle-même en plein développement. C'est une ville nouvelle, Montigny, ouais. Voisin le Bretonneux.
Juste un mot, peut-être que Benoît pourra compléter. En fait, on a eu un très bon accueil de la part des élus. On est dans une ZAC qui est en cours de construction. Et donc, on a eu à cœur de partager avec les élus avec donc les représentants de Voisins le Bretonneux le fait que cette église soit ouverte sur le quartier. Et donc la place dont je vous parle, ce narthex extérieur en fait qu'on veut créer, il est vraiment ouvert sur le quartier, donc il n'est pas refermé sur lui-même.
Oui, on a eu des discussions et avec la ville, et on a fait évoluer le projet aussi en fonction de ces discussions-là. Donc, ils ont aussi eu une part dans le projet. Parce que la particularité et la singularité de l'église Saint-Joseph-le-Bienveillant, c'est qu'elle présente son abside plutôt que sa porte d'entrée, sur le parvis qui nous est offert par la ville. Et la question était de savoir comment on amenait les gens à rentrer, comment on s'ouvrait sur la ville, alors qu'on présente plutôt l'abside en premier plan.
Oui.
Et donc, on a, en fait, c'est comme un pèlerinage pour entrer dans l'église. On a une rue qui invite à monter, parce qu'on monte pour entrer dans l'église, elle n'est pas de plein pied avec le parvis. Et on monte et on est amené par un mouvement un peu circulaire à contourner, à tourner autour de l'église et à rentrer. On arrive sur une petite place et là, il y a la porte d'entrée à la fois du centre paroissial et de l'église. Et c'est assez beau, je pense, ce mouvement. Et on a du coup ouvert avec des grandes arches sur la ville. Donc on est à la fois séparé tout en étant ouvert sur la ville. Ça évoque aussi la tradition, les arcs-boutants des anciennes églises du Moyen-Âge qui sont très, très françaises et très, très... Parce que l'art gothique et l'art roman ont compté en France. Et ça comptait aussi pour le Père Hupnik de donner à voir, un peu de façon allégorique, mais des références à l'histoire de l'architecture religieuse en France.
Et brièvement, alors où en est là actuellement le projet? Quand est-ce que cette église va ouvrir ses portes?
Alors, on a eu les informations, sont tombées la semaine dernière. Donc, le permis de construire va être déposé.
Oui.
Voilà. Donc, on va rentrer dans une phase maintenant de dessin d'un dossier qui va permettre aux entreprises de faire le chiffrage et l'estimation des travaux. Et donc, d'ici 6 mois, je dirais qu'on aura fini ce travail-là. Et à la rentrée, normalement en septembre de l'année prochaine, on devrait pouvoir commencer le chantier. Voilà.
Donc et pour une fin de chantier prévue, alors c'est toujours aléatoire et il y a le temps que ça change.
Il y a deux ans de chantier,
je crois.
Exactement ça. On a mis 2 ans sur l'engagement vis-à-vis de la mairie de terminer les travaux. C'est 2 ans.
Bon. Ariel Courtier, donc vous allez avec les chantiers, j'imagine, continuer à suivre de près ce travail. Vous serez également le week-end prochain, du 24 au 27, au Salon international du patrimoine culturel. Et vous allez revenir également sur tous les projets en cours des chantiers. Et le thème cette année, c'est la transmission dans ce salon.
Oui, le futur en héritage. Et nous proposons, dans le cadre du salon, une conférence qui aura lieu le vendredi 25 octobre à 15h30 avec nos amis Pélissier, Andrieux, également Jacques Moulin qui est architecte en chef des monuments historiques et Aude Dagneau qui est architecte du projet d'Anières. Le thème est patrimoine religieux, patrimoine vivant, qui dit bien ce que... Voilà ce dont nous avons parlé tout à l'heure.
Longuement aujourd'hui. Et donc, vous, pour en savoir plus sur le projet d'église Saint-Joseph-le-Bienveillant à Montigny-le-Bretonneux, je vous conseille donc de vous rendre sur le site agape-architecte.fr ou le site saint-joseph-le-bienveillant.fr, mais aussi sur le site des chantiers du cardinal, chantierducardinal.fr, pour suivre l'évolution de ce projet et de tous les projets gérés par les chantiers, qui seront donc également au Carrousel du Louvre du 24 au 27 octobre pour ce Salon international du patrimoine culturel. Toutes les références seront sur le site internet. Merci Ariel Courtier, merci beaucoup Benoît Andrier et Antoine Pélissier d'être venus avec nous.